Chapitre 61. Dilaf tint la princesse plus serrée et appuya la lame de sa dague contre son cou. Raten vit alors une légère entaille se dessiner dans sa peau. Il pensa au Fjorden, au travail qu'il avait accompli là-bas, aux gens qu'il avait sauvés. Un jeune garçon lui revint en mémoire, un enfant qui ne souhaitait rien d'autre que de prouver sa foi en devenant prêtre. L'unité. Non ! Le Gjorn fit un tour sur lui-même et envoya son poing dans la figure de Dilaf. Pris au dépourvu, le moine trébucha et lâcha son arme. Puis il regarda Raten avec des yeux pleins de rage et plongea sa dague dans la poitrine du Gjorn. Le couteau glissa contre l'armure de Raten. Il avait à peine égratigné le métal peint. Dilaf fixa le plastron avec des yeux étonnés. « Mais ce n'est qu'une armure de parade !»« Décidément, vous me connaissez bien mal. » Raten leva ses avant-bras ceints de plaques de métal. Il frappa violemment le moine au visage. L'ossature artificielle résista au coup de poing, mais elle craqua néanmoins sous l'impact en faisant un bruit qui réjouit le Gjorn. Je ne fais jamais rien dans le seul but d'épater la galerie. Dilaf tomba et Raten sortit l'épée du moine de son fourreau. Faites sortir vos bateaux en mer, Eventeo. Les troupes du Fjorden ne sont pas venues vous déposséder de votre royaume, mais pour vous massacrer, tous. Si vous voulez sauver votre peuple, faites ce que je vous dis. Ragdomu! Jura Eventeo avant d'appeler ses généraux en hurlant. Puis il s'interrompit. « Ma fille !»« Je m'occupe d'elle !» dit Raten d'un ton sec. « Maintenant, hâtez-vous de sauver votre royaume, pauvre idiot !» Même si les corps des moines de Dakor se remettaient vite des chocs, leurs cerveaux fonctionnaient comme ceux de n'importe quel homme. L'effet de surprise offrit à Raten quelques secondes cruciales. Il leva l'épée, poussa sa reine vers une ruelle et resta en retrait pour en bloquer l'accès au cas où la tournure des événements l'imposait.
L'eau étreignit Raoden doucement. Une chose, un être vivant, l'appelait dans sa tête d'une voix sourde. « Viens, » disait-elle, « je vais t'apporter le soulagement. » Comme un parent rassurant, elle voulait lui ôter toute douleur et toute peine, comme sa mère autrefois. « Viens, » plaidait-elle, « il est temps de renoncer. » « Non, » pensa Raoden, « pas encore. » Sitôt que les Fjordel eurent fini d'imprégner les corps des Élantriens de pétrole, ils allumèrent des torches. Durant toute la préparation, Shuden avait fait des petits cercles avec les bras sans jamais augmenter leur vitesse d'exécution, comme il avait l'habitude de le faire en cours d'escrime. Lukel commençait même à se demander si Shuden n'envisageait pas de riposter pour de bon, à moins qu'il ne se préparât à l'inévitable. Soudain, le jeune baron bondit et fonça droit devant lui. Puis il tourna sur lui-même comme un danseur pour donner plus de puissance au coup de poing qu'il ficha en plein dans la poitrine d'un moine guerrier qui psalmodiait. Un craquement se fit entendre. Shuden tourna de nouveau sur lui-même et frappa le moine au visage. La tête du démon partit en arrière, ses yeux sortirent de leur orbite lorsque son cou renforcé se brisa. Shuden avait exécuté ses mouvements les yeux fermés. Lukel n'en était pas absolument certain, mais il avait l'impression d'avoir vu autre chose. Une lueur discrète qui se manifestait seulement lorsque Shuden se déplaçait dans la nuit tombante. Lukel poussa un cri de combat, davantage pour se motiver lui-même que pour effrayer ses ennemis, et attrapa le pied de table qu'il balança sur un soldat. Le morceau de bois rebondit sur le casque, mais le jet effleura à peine le garde. Lukel en profita pour lui donner un violent coup de poing au visage. Tandis que le soldat s'écroulait par terre, il lui prit son arme. Maintenant, il avait une épée. Il aurait simplement aimé savoir s'en servir.
Les moines de Dakor étaient plus rapides, plus forts et plus résistants que lui, mais Raten était déterminé. Pour la première fois depuis des années, son âme et son esprit étaient en parfaite harmonie. Il se sentait fort, comme au premier jour de son arrivée en Arelon, lorsqu'il était encore convaincu de parvenir à sauver ce peuple. Il arrivait à les contenir, enfin, à peine. Raten n'était peut-être pas un moine de Dakor, mais il excellait au maniement de l'épée. Là où la puissance et la vitesse lui faisaient défaut, il le compensait en adresse. Il tournoya, plongea sa lame dans la poitrine d'un moine, puis l'enfonça brutalement entre deux côtes. La lame glissa entre les os hypertrophiés et atteignit le cœur. Le moine haleta et tomba dès que Raten eut retiré son épée. mais ses compagnons repoussèrent le Giorn dans la ruelle. Il sentit Saren trébucher derrière lui comme elle retirait son bâillon.
« Ils sont beaucoup trop nombreux! Vous ne tiendrez jamais !»
Elle avait raison. Par chance, les soldats se retournèrent soudain comme un seul homme. Raten entendit un bruit de combat à l'autre bout de la ville. La garde d'honneur d'Eventeo avait fini par prendre part au combat.
« Venez !»
Saren lui tapotait l'épaule. Raten se retourna. La princesse lui désignait une porte entrebâillée qui se trouvait dans le bâtiment juste à côté d'eux. Le Giorn hocha la tête, contra une nouvelle attaque et prit ses jambes à son cou.
Raoden sortit la tête de l'eau et inspira profondément par réflexe. Galadon et Karata sursautèrent sous l'effet de la surprise. Raoden observa le liquide bleu et froid qui ruisselait sur son visage. Ce n'était pas de l'eau. Il s'agissait de quelque chose d'autre, d'un liquide plus épais, indéfinissable. Cela lui demanda d'ailleurs beaucoup d'efforts pour rejoindre le bord à la nage.
« Sulé !» murmura Galadon sous le choc.
Raoden secoua la tête, incapable de répondre. Ses compagnons s'attendaient à le voir disparaître. Ils ignoraient que le lac ne pouvait le prendre que s'il le désirait.
« Venez !»
Sa voix était râpeuse. Il se releva en trébuchant. Malgré l'assaut plein de vigueur de Lukel et la puissante attaque de Shuden, les autres habitants de la ville étaient demeurés là, à regarder la scène sans rien faire, muets de stupeur. Lukel se retrouva soudain seul face à trois soldats. Il parvint à rester en vie en esquivant leurs coups et en courant plus vite qu'ils n'attaquaient. Il fut alors très étonné de voir des renforts arriver. Les femmes. Plusieurs dames, des élèves de Saren, avaient ramassé des morceaux de bois et des épées qui traînaient par terre. Elles se mirent en rang juste derrière Lukel. Leurs attaques étaient mieux menées qu'ils ne l'auraient imaginé. Au plus fort du combat, Lukel crut même pouvoir gagner la bataille. C'est alors que Shuden, frappé au bras, tomba. À la seconde où il cessa de se concentrer, sa danse guerrière prit fin. Le coup de massue qu'il reçut sur la tête lui fit aussitôt quitter le combat. La vieille reine, Eshen, fut la suivante à tomber, une épée fichée en pleine poitrine. Son cri terrible et la vue du sang dégoulinant sur sa robe firent peur aux autres femmes qui s'enfuirent à toutes jambes en jetant leurs armes. Lukel reçut une large entaille au niveau de la cuisse. Son adversaire venait de se rendre compte qu'il ne savait pas manier son arme. Il hurla de douleur et tomba à terre en se tenant la jambe. Le soldat ne se donna même pas la peine de lui donner le coup de grâce. Raoden descendait la montagne à une allure sidérante. Le prince dévalait la pente comme s'il n'avait pas été comateux quelques minutes auparavant. S'il glissait ou faisait le moindre faux pas, il roulerait jusqu'en bas sans pouvoir s'arrêter.
« Doloken !»
cria Galadon qui essayait de le suivre tant bien que mal. En courant à cette vitesse, il rejoindrait Kae en quelques minutes.
Saren restait caché derrière son improbable protecteur, parfaitement immobile dans la pénombre.
Raten regarda entre les lames du plancher. Après avoir aperçu la porte de la cave, le Giorn l'avait ouverte, puis avait poussé la jeune femme à l'intérieur. Là, ils étaient tombés nez à nez avec une famille terrorisée qui se tenait dans l'obscurité. Ils attendirent en silence, aussi nerveux les uns que les autres. Les moines sortirent de la maison par la porte de devant après en avoir fait rapidement le tour. Lorsque les lieux furent redevenus silencieux, Raten fit un signe de la tête à Saren et poussa du bras la porte de la trappe. « Allons-y !»«
Ne bougez pas d'ici !» dit Saren à la famille. « Ne sortez qu'en cas d'extrême urgence !»
L'armure du Giorn tintait tandis qu'il gravissait les marches. Il jeta un coup d'œil furtif dans la pièce. Saren pénétra à sa suite dans la petite cuisine qui se trouvait à l'arrière de la maison. Le prêtre commença alors à retirer son armure, jetant les morceaux de métal à même le sol. Même s'il ne lui avait pas exposé son plan, Saren comprenait exactement ce que le prêtre avait en tête. Et l'armure écarlate du Giorn serait beaucoup trop voyante, malgré le fait qu'elle le protégeait bien. Tandis qu'il la retirait, la jeune femme fut surprise de constater combien elle semblait lourde.
« Vous avez porté cette armure en métal tous les jours au cours de ces derniers mois? Cela n'a pas été trop difficile ?»«
Le fardeau de ma vocation. » Raten retira le dernier morceau. Le métal peint en rouge était rayé et cabossé à plusieurs endroits. « Une vocation dont je ne suis plus digne. » Il jeta le reste de l'armure par terre. Le Giorn observa les jambières, secoua la tête, puis retira les sous-vêtements en coton épais qu'il portait sous l'armure pour se protéger la peau des morsures du métal. Il se retrouva torse nu, vêtu seulement de pantalons fins qui lui arrivaient aux genoux et d'une longue bande de tissu au bras droit.
« Pourquoi dissimule-t-il son bras ?» songea sa reine. « Cela fait-il partie de la tenue des prêtres d'Hérétie ?»
Bien d'autres questions lui brûlaient les lèvres.
« Pourquoi avez-vous fait cela ? » demanda-t-elle. « Pourquoi vous battez-vous contre les vôtres ?»
Ratten ne répondit pas immédiatement. Puis, sans la regarder, il dit « Dilaf agit mal. »
« Mais votre foi ?»
« Je crois en Jadet, un dieu qui demande aux hommes une dévotion absolue, pas qu'il massacre en son nom. »
« Virne n'a pas l'air de voir les choses sous cet angle. »
Ratten se contenta d'attraper une cape posée près de lui sur un coffre. Il la tendit à la princesse, puis en prit une autre pour lui. « Nous ferions mieux de partir. »
Les pieds de Raoden étaient tellement meurtris, lacérés, écorchés, qu'il ne ressemblait plus qu'à deux morceaux de chair rouge vif. Il avait l'impression que ses orteils n'étaient plus que des protubérances douloureuses. Mais il continuait de courir. Il savait que s'il s'arrêtait, la douleur le torturerait de nouveau. De plus, il ne se sentait pas véritablement libéré. Son esprit revenu du vide devait rester concentré sur son but. Il savait que lorsqu'il en aurait terminé, le vaste néant blanc l'attirerait encore vers le lieu de l'oubli. Il marcha en titubant sur Caë, sentant son chemin autant qu'il le voyait. Luquel, à moitié assommé, se laissa entraîner par Jala dans la foule terrifiée des habitants de la ville. Sa jambe le lançait, son corps s'affaiblissait à mesure que sa blessure saignait. Sa femme lui fit un bandage du mieux qu'elle put, mais Luquel savait bien que cela ne servait à rien. Même si Jala parvenait à stopper les saignements, les soldats les tueraient d'ici quelques instants. Il regarda avec désespoir un guerrier torse nu lancer une torche enflammée sur la pile de corps imprégnée de combustible. Ils prirent feu aussitôt. L'homme démon désigna plusieurs soldats de la tête. Les hommes dégainèrent immédiatement leurs épées et se dirigèrent d'un pas déterminé vers le petit groupe de citadins blottis les uns contre les autres.
« Mais qu'est-ce qu'il fait ?»
demanda Karata tandis qu'ils arrivaient en bas de la pente. Raoden avait toujours une bonne avance sur eux, courant d'un pas boiteux vers le mur d'enceinte de Caë.
« Je ne sais pas !» répondit Galadon.
Raoden ramassa un long bâton, puis se remit à courir en traînant le morceau de bois derrière lui.
« Qu'as-tu en tête, Sulé ?»
songeait Galadon. Malgré lui, il sentait l'espoir revenir, toujours aussi tenace.
« J'ignore ce qu'il fabrique, Karata, mais ça a l'air important. Nous devons veiller à ce qu'il puisse finir ce qu'il vient de commencer. »
Il se mit à courir pour rejoindre Raoden en suivant ses pas. Quelques minutes plus tard, Caë apparut.
« Là-bas !»
Une escouade de six gardes Fjordel, certainement revenus chercher des retardataires, arpentait le long mur d'enceinte de Caë. Le soldat qui se trouvait devant aperçut Raoden et leva aussitôt la main.
« Viens vite !» dit le Dula à sa compagne en se précipitant vers Raoden. « Qu'importe ce qui arrivera à Karata, mais il ne faut pas qu'il l'arrête !»
Raoden n'entendit pas les soldats. Il reconnut à peine Galadon et Karata qui couraient derrière lui. Heureusement, ses compagnons arrivèrent juste à temps pour barrer la route aux hommes armés dans un geste désespéré. Ils n'avaient pas d'armes. Une petite voix dans la tête de Raoden lui dit alors que ses compagnons ne lui permettraient pas de gagner beaucoup de temps. Le jeune roi continua sa course en serrant fermement le bâton dans sa main. Il n'aurait su dire pourquoi il pensait se trouver au bon endroit, mais il en était convaincu. Il le sentait. Encore quelques pas, juste quelques pas. Une main le saisit soudain. Une voix cria en Fjordel. Raoden fit un faux pas et s'étala de tout son long, sans lâcher pour autant le bâton qui ne se déplaça pas d'un centimètre. Quelques secondes plus tard, il entendit grogner. La main relâcha son instrument.
Juste un peu plus loin.
Autour de lui, les hommes se battaient. Galadon et Karata empêchaient tant bien que mal les soldats de passer. Raoden laissa échapper un sanglot enfantin de frustration, rampant comme un nourrisson pour continuer de tracer la ligne sur le sol. Des bottes passèrent près de sa main, manquant lui écraser les doigts. Mais il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il fut enfin près du but, il leva les yeux. Un soldat porta un coup fatal qui décapita Karata. Galadon tomba à son tour, deux épées plantées dans l'estomac. Le garde désigna alors Raoden du doigt. Le jeune roi serra les dents et termina de tracer la ligne dans la boue. Le Dula s'effondra sur le sol. La tête de Karata rebondit contre le mur en pierre. Le soldat fit un pas vers Raoden. C'est alors qu'une lumière violente jaillit de la terre. Elle irradiait comme une rivière d'argent que l'on aurait pulvérisée à travers l'air. Elle suivait le tracé de Raoden et enveloppa le prince, mais il ne s'agissait pas vraiment de lumière. Il était en présence d'une pureté essentielle, d'une puissance raffinée, le d'or. La force glissa sur lui et le recouvrit entièrement, comme un liquide chaud. Soudain, pour la première fois depuis 2 mois, Raoden n'eut plus mal. L'énergie lumineuse continua de se répandre le long de la ligne et rejoignit bientôt le mur d'enceinte. Elle le longea, continua sa route et traça un cercle autour de Kae. Mais elle ne s'arrêta pas là. La force parcourut la courte distance qui séparait Kae d'Elantris et recouvrit le mur immense de la cité maudite. Puis, d'Elantris, se dirigea vers les 3 cités en ruine qui se trouvaient à proximité. Elles étaient totalement à l'abandon depuis que le Réod s'était abattu sur la région 10 ans auparavant. Bientôt, les 5 villes se retrouvèrent reliées entre elles par de la lumière, telles 5 colonnes resplendissantes d'énergie. Les cités dessinaient un motif en forme d'immense aon, le point de convergence de la force d'Elantris. Durant tout ce temps, il avait seulement manqué la ligne du gouffre pour que le d'or se remette à fonctionner. 1 carré, 4 cercles, l'aon Rao, l'esprit d'Elantris. Raoden se tenait debout dans le torrent de lumière, ses vêtements flottant sous l'effet du souffle puissant. Il se sentait plus fort, les douleurs s'évanouissaient comme des souvenirs bénins. Ses blessures guérissaient enfin. Il n'avait pas besoin de se voir pour sentir qu'une douce chevelure poussait sur son crâne, que sa peau n'arborait plus sa couleur maladive, mais qu'elle brillait à présent d'un doux éclat argenté. Il ressentit alors une joie plus grande encore, tel le tonnerre tonitruant. Son cœur se remit à battre dans sa poitrine. Le Shaod, la transformation, avait fini par s'accomplir. En soupirant, Raoden s'écarta à regret de la lumière. Il ressemblait à une apparition, à une créature métamorphosée. Quelques pas plus loin, Galadon abasourdi se releva. Sa peau luisait d'un éclat gris métallique. Les soldats terrifiés prirent aussitôt leurs jambes à leur cou. Certains se signèrent pour conjurer le mal en invoquant leur dieu. Raoden désigna les quais de son doigt scintillant. « Je vous donne 1 heure. Partez !» Lucael étreignit sa femme et regarda le feu consumer le combustible vivant. Il lui murmura combien il l'aimait. Les soldats avancèrent vers eux pour finir leur travail macabre. Le père Omun murmurait derrière Lucael, priant en silence d'Omu de veiller sur leurs âmes et sur celles des bourreaux. Comme une torche que l'on aurait allumée, Elantris se retrouva soudain entièrement illuminée. La ville trembla, ses murs donnèrent l'impression de pousser du sol, de se tordre sous l'effet d'une puissance stupéfiante. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la cité furent happés par un vortex d'énergie et des vents violents se levèrent sur la cité. Puis le calme retomba, comme si la ville se trouvait dans l'œil d'une énorme tornade blanche. La force, véritable rempart étincelant de lumière, continuait de faire rage à l'extérieur tout autour de la cité. Les gens amassés là se mirent à crier de peur et les soldats, hagards, poussèrent des jurons en observant les murs éclatants. Lucael ne regardait pas les murs. La bouche entr'ouverte d'étonnement, il observait le bûcher funéraire et les sombres silhouettes qui se relevaient. Lentement, les Elantriens sortirent des flammes indemnes, leurs corps scintillant avec plus d'éclat encore que les flammes qui les entouraient. Les habitants de la cité s'assirent, stupéfaits. Seuls 2 guerriers démons demeurèrent debout. L'un d'eux poussait des cris de défi et menaçait de son épée les Elantriens qui avançaient vers lui. Une boule de lumière traversa alors la cour principale et vint frapper le moine dans la poitrine. La puissance du souffle pulvérisa littéralement la créature. Son épée retomba sur les pavés dans un fracas métallique, suivi de près par un petit tas d'os fumant et de chair carbonisée. Les yeux écarquillés, Lucael scruta l'endroit d'où la boule avait été lancée. Il vit Raoden debout près de la porte principale, les mains levées. Le roi rayonnait comme un spectre revenu d'entre les morts. Il avait la peau couleur argent, une étincelante chevelure blanche et un air triomphant. Le dernier moine cria et maudit Raoden en fjordel. Il le prenait pour un svrakis. Alors le prince leva la main, puis dessina lentement des traits qui se mirent aussitôt à briller dans l'air ambiant. Des traits aussi étincelants que les murs tout autour d'Elantris. Raoden se figea. Sa main tenait un caractère brillant, en équilibre. Laonda, celui qui signifiait la puissance. Le roi regarda le guerrier d'Ereti à travers le symbole lumineux avec des yeux pleins de défiance. Le moine jura encore, puis baissa lentement son arme. « Partez, toi et tes hommes, moine !» dit Raoden. « Montez à bord du premier bateau et partez !»« Hommes et navires, Tout ce qui est d'Eretti périra sous le coup de ma colère avant une heure. À votre place, je ne tenterai pas le diable. » Les soldats avaient déjà pris la fuite et se ruaient vers la ville, loin de Raoden. Leur chef les suivit aussitôt. Comparé au corps glorieux du roi, ceux des moines faisaient davantage pitié que peur. Raoden les regarda s'en aller, puis il se retourna vers Lucel et ses compagnons d'infortune. « Peuple d'Arellon, la force d'Elantris nous est revenue, aussi puissante qu'avant !» Lucel prit d'étourdissement, cligna des yeux. Il se demanda même durant un instant si tout ce qui venait de se passer n'était pas un mirage inventé par son cerveau surmené. Mais les cris de joie qui fusèrent lui confirmèrent que tout était bien réel. Ils étaient sauvés. « Qui l'eût cru ? » déclara-t-il avant de s'évanouir à cause de la quantité de sang qu'il avait perdu.
Dilaf toucha délicatement son nez cassé en se retenant de ne pas hurler de douleur. Ses hommes, des moines de Dakor, attendaient près de lui. Ils avaient tué les gardes du roi sans la moindre difficulté, mais lors du combat, Eventeo, la princesse et ce traître de Ratten avaient réussi à s'éclipser.
« Trouvez-les !» ordonna le Gradjet en se relevant.
La rage, la colère. Il entendait la voix de sa femme défunte l'appeler et réclamer vengeance. Elle l'obtiendrait. Eventeo n'aurait jamais le temps de mettre ses bateaux à la mer. De plus, 50 moines se trouvaient déjà sur place. Il valait une armée à eux tous. Un seul de ces hommes avait la force de sang. Ils allaient conquérir le Théode.